À vue d'esprit, Catherine Erard.
En quête d'une vie spirituelle plus contemplative, certains diraient plus mystique, ils sont nombreux, ceux et celles qui pratiquent quotidiennement la méditation pour se relaxer ou pour entrer en relation avec le divin. Aux racines chrétiennes de la méditation, cette série vous est proposée par Evelyne Auberçon et elle est réalisée par Hélène Ichters. Il n'y a pas que dans le zen ou dans le bouddhisme que l'on s'assied en silence pendant 30 minutes en essayant de libérer son esprit de toute pensée. Dans les premiers siècles du christianisme, cette pratique existait aussi. Mais elle a progressivement disparu, du moins en Occident. Aujourd'hui, des chrétiens la redécouvrent et la remettent au goût du jour. Evelyne Auberçon, c'est ce que nous voyons avec vous depuis le début de cette semaine.
Et c'est le cas par exemple de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. C'est un mouvement, comme son nom l'indique, qui est international. Mais ce n'est pas le seul, il existe en effet d'autres offres similaires dans des centres de formation spirituelle par exemple. Mais si je parle de cette communauté, c'est parce qu'elle est présente en Suisse romande au travers de plusieurs petits groupes qui se retrouvent une fois par semaine pour méditer ensemble.
Alors ce sont des personnes qui recherchent quoi ? Une dimension spirituelle ou qui cherchent à calmer l'agitation, à mieux gérer leur stress ?
Alors je pense que c'est d'abord une dimension plus contemplative à leur vie spirituelle qui est recherchée. Ils désirent vraiment aussi en même temps retrouver leur racine chrétienne tout en se sentant très ouverts au dialogue avec d'autres traditions religieuses. Très souvent, ils ont d'ailleurs passé par d'autres pratiques de méditation, souvent orientales. C'est le cas de Deborah Walton, de Genève et de son mari John Mudderley, que nous allons entendre successivement. Priorité aux dames, Deborah.
J'ai beaucoup été dans ma vie un peu papillon. Je papillonnais à droite à gauche. Je passais d'un cercle d'amis à un autre, etc. Alors la méditation, ça m'a donné l'enracine. Je me sens enracinée, Ça m'a donné une solidité que je n'avais pas avant. Une confiance dans la vie, une confiance dans l'avenir. Je me sens très incarnée, en fait. J'ai découvert la méditation par d'autres filières, en quelque sorte. Enfin, j'ai fait de la méditation dans un centre de yoga pendant de nombreuses années. Après, j'ai fait aussi un peu de méditation bouddhiste parce que mon fils a découvert cette forme de méditation. Et puis, bon, au fil des années, à un moment donné, j'avais l'impression que, surtout dans le centre de yoga, j'adorais y aller pour faire du yoga, mais je commençais à me sentir un petit peu mal à l'aise dans le sens que j'étais pas dans ma tradition. Et avec un jour, avec mon mari, je lui ai dit, mais écoute, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de méditation dans l'église chrétienne. Et bon, voilà, c'est resté là. Et un jour, il est parti à Londres. Il est allé passer un week-end dans un monastère bénédictin à l'extérieur de Londres. Et il est revenu tout joyeux en me disant, mais ça existe. Et il avait découvert la méditation chrétienne. Et puis à partir de là, ça remonte au début des années 90, 93 peut-être, quelque chose comme ça.
Au fond, qu'est-ce que vous cherchiez ? Vous avez testé, vous avez dit plusieurs types de méditation. Qu'est-ce que fondamentalement vous cherchiez ?
Alors, je dirais que depuis ma petite enfance, hein, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose. On se moquait un petit peu de moi d'ailleurs dans ma famille. Ils étaient chrétiens, oui, dans le sens que, enfin, moi, je suis née, j'ai été élevée en Angleterre. Ils étaient chrétiens dans le sens qu'ils allaient à l'église, oui, mais moi je cherchais autre chose sans trop savoir ce que c'était. Et puis en fait, on se moquait beaucoup de moi. Et tout ça fait que j'ai laissé ça de côté pendant très 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 longtemps. Et bien, ce que j'avais au fond de moi, ça revenait de temps en temps. Et puis un jour, c'est revenu très très fortement. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga. Et qu'à travers le centre de yoga, j'ai découvert la méditation hindoue, en fait. Et bon, j'aime assez ce qui est baroque, je dois reconnaître. Donc, au début, toutes ces statues, la musique, tout ça, ça me faisait chaud au cœur. Mais bon, petit à petit, ce sentiment de bien-être a commencé à se dissiper malgré tout. Et qu'est-ce que je cherchais ? Je cherchais ce que je savais, ce que j'ai toujours su, que j'avais au fond de moi sans trop savoir ce que c'était. D'ailleurs, je ne suis même pas très sûre aujourd'hui de pouvoir mettre des mots là-dessus, mais je sais que je l'ai trouvé.
Si vous deviez raconter votre histoire avec Dieu, qu'est-ce que vous diriez ?
D'abord, pour moi, mon histoire avec Dieu est une histoire ancienne. C'était pendant très longtemps une histoire intellectuelle. J'ai fait des études de théologie. Après, j'ai étudié l'hébreu, j'ai étudié le grec, j'ai essayé de comprendre les choses. Mais c'est resté très dans ma tête, très intellectuel. Bon, au fil des années, là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, que l'intellect c'est bien, et je ne renie pas tout ça, c'était passionnant, mais qu'il manquait quelque chose au niveau du cœur. Et ça, je l'ai trouvé dans la méditation. La méditation n'est pas pour moi quelque chose. Quand je m'assois pour méditer, c'est pas, ça ne se passe pas toujours bien entre guillemets, dans le sens qu'il y a souvent des moments où j'en ai pas envie. Où je me dis, mais j'ai tellement d'autres choses à faire, mais donc c'est une discipline, c'est aussi un travail. C'est pas, enfin pour moi, c'est comme ça. Hein, c'est pas, je peux ressentir un grand réconfort dans la méditation si j'entre dans la méditation dans un état un peu de d'anxiété ou je suis un peu pressée ou quelque chose comme ça, je me calme, ça c'est clair. Mais pour moi, il ne se passe pas grand-chose pendant la méditation. C'est en dehors de ces périodes où je me rends compte que je me sens accompagnée par ce que moi j'appelle Dieu. Je peux avoir des... J'hésite à utiliser ce terme, je peux avoir des intuitions sur des choses toutes simples, toutes innocentes. Et puis si je les suis, elles s'avèrent d'être véridiques. Hein. Moi, je veux dire que c'est quelque chose de global. C'est énorme, ça m'a changé complètement la vie. Je sais que c'est quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, si vous voulez, qui s'occupe de tout ça. J'ai pas besoin de m'en occuper. J'ai besoin de faire ce que chaque être humain doit faire. Hein. Je dois payer mon loyer, je dois faire toutes ces choses, c'est évident. Je m'attends pas à ce que Dieu le fasse pour moi. Mais quand je me trouve face à quelque chose où je me sens un peu désarmée, je sais pas comment faire, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper et puis que les idées vont me venir ou des personnes viendront qui vont régler ces problèmes.
Je m'appelle John Mulderley. J'ai commencé à méditer au début des années 90 avec un groupe d'obédience hindouiste qui suivait un gourou qui était à New York. J'ai appris à méditer. Je n'ai que du bien de dire de tout ça. Cependant, ce n'était pas ma culture religieuse et je me suis trouvé au fil du temps en porte-à-faux, pas avec les personnes, mais avec l'obédience religieuse. Et en 1994, lors d'une visite à un monastère en Angleterre, j'ai découvert la méditation chrétienne de John Mayne. Et quelques temps après, j'étais le premier à amener ces groupes en Suisse, à créer un groupe en Suisse à Genève.
Comme si, à la fois, vous avez donc pris l'aspect méditation qui vous a touché dans l'hindouisme, et en même temps, vous avez retrouvé vos racines chrétiennes.
Tout à fait. J'ai retrouvé mes racines chrétiennes avec quelque chose d'autre en prime. Les racines chrétiennes à travers une pratique contemplative, qui était une dimension qui m'avait manqué dans le christianisme. Et puis, surtout, ou également, des chrétiens qui étaient en dialogue très clair avec les autres religions. Un dialogue très profond était déjà instauré avec les autres religions, ce qui m'agréait beaucoup.
J'aimerais revenir à ce besoin de la dimension contemplative. Parlez-moi peut-être de vos racines, de votre éducation religieuse, et puis ce qu'elle vous a apporté, et ce qu'elle justement ne vous a pas apporté, cette dimension contemplative.
Je suis né aux États-Unis d'un père italien et d'une mère américaine. J'ai fréquenté l'église protestante quand j'étais aux États-Unis à New York, et puis l'église catholique quand j'étais en Italie. Et sans vouloir faire de jugement de valeur qui n'auront aucun lieu, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par le catholicisme pour la dimension mystique que j'y voyais. Les bougies, l'encens, la liturgie, ainsi de suite, m'ont toujours beaucoup séduit, tant et si bien que je me suis officiellement reconverti au catholicisme en tant qu'adulte. Donc le côté mystique m'a toujours engagé. Personnellement, j'ai toujours aimé vivre loin de la foule. Même pendant mes vacances, c'était plutôt île grecque que club méditerranéen. Donc en joignant les deux choses, je pense déjà pas mal d'embryons de foi quand j'étais jeune. Et l'engouement par le silence, la tranquillité, la nature, en joignant les deux bouts, la dimension catholique, contemplative, dans le christianisme, notamment dans le catholicisme, m'a beaucoup attiré.
Ça fait des années que vous méditez. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale?
Le vrai bénéfice de la méditation, on la retrouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si le bienfait de la méditation se limitait à une retraite quelques fois par année, on aurait raté la cible. Pour moi, mais pour beaucoup d'autres, les résultats ont été... Dans le travail, on dit souvent que le monde des affaires est brutal, difficile, bruyant, et je dis c'est un choix de comment on mène ses affaires. Je suis dans un milieu de transactions et de conseils hôteliers. J'amène beaucoup de silence dans mon bureau. Je traite habituellement avec des gens pour qui j'ai de l'affect également. Je pense qu'on est éthique dans ce qu'on fait. Je passe plus de temps dans une ambiance relativement silencieuse au bureau que dans des réunions bruyantes. Chez moi, ma femme et moi n'avons pas de télévision, c'est un choix. On lit un nombre limité de médias de bonne qualité, mais pas trop. On ne sort pas énormément. Et on a une vie qui est très riche, mais qui est très simple en même temps. Donc, je pense que si on n'amène pas les fruits de ce qu'on trouve dans la méditation. John Mayne parle de simplicité, de stillness, ça veut dire de quiétude et de silence. Si on n'amène pas ces trois éléments de la méditation dans sa vie courante, encore une fois, on a raté le coche.
Dans cette vie intérieure que vous avez développée toutes ces années, quel est le Dieu que vous rencontrez ? Qui vous rencontrez quand vous méditez ?
Le Dieu qui est au-delà de tout nom. C'est une présence. Je pense que la plus grande douleur de l'homme est de se sentir vide à l'intérieur, ce qui le conduit à des conduites addictives, à des habitudes de vie où on fait tout, y compris la socialisation à l'extrême, pour essayer de remplir ce vide. Et je pense qu'à partir du moment où on est réellement habité, on devient autonome, parce qu'on est en paix avec soi-même et on est comblé. Donc en ce qui me concerne, et je ne parle que pour moi, c'est le Dieu qui est au-delà de tout nom, c'est la présence qui m'habite.
Est-ce que cette présence, c'est une présence silencieuse, c'est une présence qui vous parle? Est-ce que c'est une présence qui, dans le cadre de la méditation, vous permet de discerner, de prendre des décisions dans votre vie?
La plupart des doutes que nous avons sont de l'ordre mental. Or, la méditation met en veilleuse le mental pour qu'une plus grande intelligence, qui est celle de Dieu, parle. Et quand dans la vie pratique, on met ça en œuvre aussi, notre mental, qui est mu par la peur, qui est mu par nos expériences et nos douleurs passées, donc qui nous conditionne, se met en sourdine, et c'est la grande intelligence qui nous traverse, qui est celle de Dieu qui parle. Et donc, bien évidemment, on est amené à prendre de meilleures décisions, de faire de meilleurs choix, déceler des opportunités, et ainsi de suite.
Globalement, vous aide à prendre du recul sur votre vie, sur ce que vous vivez.
Du recul d'un côté et éminemment pratique d'un autre, puisque devant des choix potentiellement difficiles, de plus en plus, la bonne voie se dessine avec plus de facilité.
Comment vous avez un travail très prenant. Comment vous avez réussi à développer une discipline qui vous permet de prendre du temps, deux fois par jour, pour méditer?
C'est un choix. Si le mot « prendre du temps », en allemand c'est « Zeit nehmen », « take time », toutes les langues parlent de « prendre du temps », c'est que par définition, si on le prend, on ne l'a pas, parce qu'on est happé par autre chose. Donc c'est une décision de volonté de prendre ce temps. Ensuite, ça devient plus facile parce qu'on voit que c'est rentable. Je déteste ce mot appliqué à la spiritualité, mais d'abord, on va mieux et on prend de meilleures décisions. Donc, on se rend compte que c'est également une très bonne politique à suivre.
John Mudderley, de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. Je vous propose maintenant de découvrir un autre couple de méditants. Il s'agit de Dominique et Fuzia Geiger qui vont nous parler des fruits de leur pratique de la méditation. Lui est catholique, elle est musulmane. Précisons que Dominique est aussi médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur et que la méditation a aussi un impact sur sa pratique médicale.
J'ai eu la chance de rencontrer la méditation déjà vers l'âge de 18 ans. D'abord, j'avais pratiqué du yoga. Ensuite, j'ai rencontré la méditation transcendantale. J'avais demandé à mon père spirituel de l'époque si c'était OK si je pratiquais ce mantra.
Et le père spirituel, c'était qui ?
Un prêtre catholique, quelqu'un d'ouvert qui m'a dit oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et depuis lors, je dirais à 99% des jours de ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai passé 50, je médite tous les jours. Et tout au long de ces années, ça m'a donné une grande paix, une grande force intérieure. Ça m'a permis de traverser des situations. Je pense que si j'avais pas eu cette méditation, je comprends les gens qui se découragent, quoi. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai très à cœur d'essayer de transmettre la méditation à d'autres personnes. Alors, cette méditation, ce qu'il faut dire, c'est que c'est basé sur la répétition d'un mot. Dans la méditation chrétienne, que je pratique là depuis 5-6 ans, on utilise le mot « Maranatha ». Ça veut dire « Viens Seigneur » en araméen. On ne s'attache pas sur le sens du mot, mais le fait de répéter incessamment pendant 20 à 30 minutes « Maranatha » matin et soir donne une paix intérieure. Je médite avec mon épouse ou seule le matin et avec elle ou seule le soir, au moins une des deux fois on médite ensemble. Et ça veut dire que je passe 45 minutes par jour à méditer. Parce que ça change l'échelle des valeurs.
L'échelle des valeurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
L'échelle des valeurs, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est quand même relativement matérialiste, hein, où l'esprit, dans le sens de ce qui est éternel en nous, n'est pas très bien pris en compte, y compris dans la médecine. Et moi, je vois bien quand quelqu'un va mourir, que je dois l'accompagner, eh ben, j'ai quoi avec ma médecine pour l'aider. Donc, un jour ou l'autre, je suis quand même obligé de me poser la question du spirituel. Donc, pour moi, une médecine sans méditation, ça serait incomplet. C'est comme ça que, quand on m'a posé la question, est-ce que tu serais d'accord de lancer un groupe, j'étais d'emblée partant parce que je me suis dit, mais c'est dans la prolongation logique de ce que je fais. C'est-à-dire, je m'occupe des gens. Personnellement, ça m'aide un grand soutien de méditer. Donc, les gens qui viennent me voir au cabinet, il y a un mois en salle d'attente, voilà, le premier et le troisième mercredi du mois, de 8h à 9h, eh ben, on médite dans notre salle d'attente. Et ça coûte rien, et c'est libre, il n'y a pas besoin d'avertir pour venir. C'est ça que j'aime, c'est le côté liberté et le contact direct avec le divin en nous. C'est une expérience.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites que j'aimerais reprendre. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Commençons d'abord par la salle d'attente. Est-ce que des gens viennent dans votre salle d'attente quand justement c'est deux fois par mois?
Alors donc nous avons commencé le groupe en 2009 et nous sommes entre 6 et 12 personnes.
On sait qu'il y a aujourd'hui des méditations entre guillemets laïques, où la dimension d'une foi en un Dieu ou dans une divinité n'est pas nécessaire, mais il y a plutôt l'idée d'une sorte de méditation thérapeutique. Comment vous, à la fois comme méditant et à la fois comme médecin, comment vous distinguez ces deux niveaux?
Alors moi, je dirais qu'en méditant, ben on fait d'une pierre deux coups. On s'occupe de rencontrer Dieu au cœur de notre cœur. Qu'on soit chrétien, musulman ou d'une autre religion, on atteint l'universel. Les religions se chicanent entre elles quand on est au niveau théologique, au niveau des discussions. Mais si on passe à la pratique de rencontrer Dieu, j'ai eu médité avec des bouddhistes dans le cadre de la méditation chrétienne. On a médité avec des soufis. Donc musulmans, il n'y a pas de souci. Avec mon épouse, on médite chaque jour ensemble et elle est soufie, elle est musulmane.
Je vais me tourner vers votre épouse.
Oui, je m'appelle Fouzia, je suis l'épouse de Dominique. Donc je suis de confession musulmane. La méditation, c'est quelque chose que j'avais adopté déjà bien longtemps, déjà dans les années 80. Là, j'avais découvert aussi la méditation transcendantale, donc l'AMT, qui m'a aidée, qui m'a énormément aidée sur pas mal de plans. Et puis, au fil des années, ben, cette méditation, elle a continué, elle a cheminé en moi, mais elle s'est transformée en fonction aussi de la transformation que je vivais intérieurement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan psychologique. Et aujourd'hui, avec une rencontre de nouveau de mon mari en 2010, on a pu ensemble découvrir une unité dans notre pratique quotidienne et spirituelle. J'ai fait aussi une redécouverte de ma tradition musulmane, ce qui m'a amené aussi à rencontrer d'autres êtres qui sont aussi sur ce chemin d'un islam spirituel. Ouvert, donc vers le travail du cœur. Et c'est là où j'ai rencontré une communauté soufie. Et quand je suis là-dedans, ben je suis aussi en connexion avec mon mari qui est de tradition chrétienne. Mais en fait, quand on est là-dedans, on partage au niveau de l'expérience. Et c'est ça aujourd'hui qui me donne une espérance par rapport à notre humanité, parce qu'on a besoin de ce dialogue.
Concrètement, pour votre vie de couple, qu'est-ce que la méditation, le fait que vous méditiez ensemble, qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors, effectivement, ce que nous avons trouvé, on a trouvé différentes formules. Moi, par exemple, je viens avec des textes sacrés, donc des textes sacrés que nous partageons avant la méditation, ou bien mon mari, il vient aussi avec des textes de l'Évangile. Nous ne donnons pas d'explication, mais que nous laissons juste ce moment de partage, nous traverser de l'intérieur et nous cheminons dans notre méditation. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est un enrichissement important. Ça fait partie du socle de notre couple, parce que notre couple, on l'a bâti aussi sur cette base spirituelle. Et ça nourrit notre couple.
Moi, je dirais que en méditant, ça me pacifie. Et dans toutes mes relations, je suis certainement différent que si je ne méditais pas. Il y a un apaisement intérieur, un recul que je pourrais pas avoir sans pratiquer ce genre de méditation.
Dominique et Fouzia Gaillère, un couple qui pratique la méditation ensemble dans le respect de leurs traditions religieuses respectives, en l'occurrence chrétienne et musulmane, Evelyne Auvergne.
Oui, on entend souvent dire que les barrières qui séparent les religions entre elles s'estompent lorsqu'on atteint le niveau plus spirituel, mm-hmm. quand on a une quête plus intérieure, plus mystique, comme s'il existait des synergies quand on est au-delà des dogmes et des rites. Mm-hmm.
Et pour demain, le dernier volet de cette série que vous consacrez à la méditation chrétienne, on va continuer à voir finalement les interactions qu'on constate entre l'Orient, l'Occident, sur cette question de la méditation.
Oui, et surtout les changements qu'on peut ressentir en Occident. Ce besoin d'une quête spirituelle, d'une vie spirituelle plus contemplative. Moins intellectuelle. C'est certainement aussi un signe d'un changement beaucoup plus global de notre société.
Merci beaucoup Evelyne Auberçon. On se retrouve pour le dernier volet de cette série demain à 16h30. Retrouvez-nous demain à 16h30 pour la suite de cette série signée Evelyne Auberçon. L'épisode de demain s'intitule « L'attrait de la méditation, symptôme d'un nouveau paradigme ». Et puis, dans quelques minutes après les informations, vous avez rendez-vous avec Daniel Robella et D'un air entendu. Très belle fin d'après-midi à vous tous. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.